Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous allons parler fleurs et horticulture à l'occasion du colloque de la Société Nationale d'Horticulture de France qui a eu lieu à l'Agrocampus de Rennes le 24 mai dernier et dont le thème était les coulisses de la floraison. À cette occasion, nous apprendrons ce qu'est l'horticulture et comment fonctionne le mécanisme de la floraison et de la reproduction des fleurs. Nous sommes aujourd'hui au colloque de la Société Nationale d'Horticulture de France à l'Agrocampus de Villejean. Je suis avec Monsieur Henri Delbar, président de la Société Nationale d'Horticulture de France. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'horticulture, nous en faire par exemple la genèse ?
Écoutez, l'horticulture, c'est tout ce qui concerne la culture de nos jardins, de nos espaces verts, c'est-à-dire toutes les plantes ornementales, les plantes légumières, les plantes fruitières, les bulbes. C'est aussi les bouquets, l'art floral fait partie de l'horticulture. Donc c'est tout un monde. C'est le monde de la nature où la main de l'homme intervient. Voilà, donc c'est une nature sélectionnée, c'est une nature travaillée, c'est une nature imaginée, puisque on va sur les types de jardins à l'anglaise, à la française, etc.
Donc l'horticulture, c'est une science qui a une très longue histoire au final.
Alors, ce n'est pas une science au départ, c'est une technique, c'est apprise année après année sur le terrain avec des gens fabuleux qui étaient des grands observateurs, mais qui, en tout cas les plus grands d'entre eux, sont devenus de véritables scientifiques. Et certains d'entre eux, tel le vicomte Ricard de Thury, a présenté au roi Charles X les statuts de la première société, la Société d'horticulture royale de Paris, en 1827. Et il avait cette phrase magnifique en disant « Sire, je viens vous présenter une science tranquille, l'horticulture ». Et vous voyez que donc cette expérience de terrain est petit à petit devenue une science parce qu'on s'est aperçu, comme dans tous les domaines, que l'approche scientifique était la seule qui nous permettait véritablement d'évoluer. Mais il a rajouté « science tranquille », ce qui caractérise, je crois, les amoureux de la nature, les jardiniers, les horticulteurs que nous sommes. Nous vivons au rythme de la nature, nous n'allons pas la violer et nous allons la respecter. Mais en même temps, c'est une connaissance scientifique, objective, dans laquelle il faut accepter de dépasser la plante, de rentrer dans la cellule, de rentrer dans le génome, car c'est ce qui nous fait aussi comprendre les mécanismes de la vie, les mécanismes des plantes. Et pour nous, les professionnels, ces mécanismes sont fondamentaux. Si nous les connaissons un peu plus, nous pourrons obtenir des plantes améliorées, nouvelles. Et c'est toute l'économie donc, d'un secteur très important en France qui est partiellement dépendant justement de l'évolution de la connaissance scientifique.
En fait, le but de l'horticulture, c'est de comprendre. Est-ce que c'est de domestiquer les plantes ou de s'adapter à elles? Est-ce que c'est de créer de nouvelles choses? Et est-ce qu'on peut aussi qualifier l'horticulture comme une forme de science artistique?
Oui, alors c'est clair que l'horticulture est un point de rencontre entre l'esthétique, qui m'apparaît fondamentale, même sur le plan intellectuel, d'avoir de beaux raisonnements. Pas simplement de bons, mais de beaux raisonnements est important. Donc l'esthétique, la nature vierge, les plantes au naturel, que l'on n'a pas, comme vous le dites, domestiquées, que l'on a appris à reconnaître et que l'on a appris à utiliser, des fois en dehors de leur site d'origine, mais toujours en les respectant. Et c'est finalement le souhait, la quête de recréer de nouveaux équilibres, de nouvelles combinaisons que nous offre pas immédiatement et naturellement la nature, mais que nous voulons voir recréer dans nos jardins, sur nos terrasses, dans nos villes.
Est-ce que l'horticulture est une science qui découle de la biologie ou est-ce que c'est une science qui dépend d'elle-même ?
Écoutez, c'est une science qui s'applique à la nature, hein, et aux plantes, donc, et forcément à la biologie, à la physiologie des plantes. Donc, partant d'une plante entière, quand on devient scientifique ou professionnel, ou même amateur passionné comme sont nos adhérents de notre Société nationale d'horticulture de France, on est obligé de devenir un petit peu biologiste, un petit peu physiologiste, voire maintenant biologiste moléculaire. Et ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un péché, ce n'est pas contre la société. Au contraire, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, on est en admiration quand on se rapproche du Big Bang et qu'on est à quelques centaines d'années-lumière des premières étapes de la création du monde et qu'on ne voudrait pas, au niveau de ce qui existe à notre portée dans nos arbres, dans nos plantes, dans nos herbes, vouloir connaître ce qui se passe au niveau du gène et de ce qu'il gère. C'est absolument fondamental. Et puis, je vais dire de manière alors assez vulgaire, en tout cas ça m'apparaît vulgaire, et si nous ne le faisons pas ? Le reste du monde est en train de le faire, et la France, à l'heure actuelle, je suis triste. Nous avions des gens, nous les avons encore, mais ils travaillent maintenant à l'étranger, exceptionnels en biologie moléculaire, avec des programmes respectueux. Peut-être n'ont-ils pas su les expliquer, les faire partager, ça c'est vrai. Mais la France est en train de s'amputer d'une tête, pas d'un bras, d'une tête, de sa tête en matière de physiologie, de biologie moléculaire, etc. C'est dramatique alors que nous étions un pays à la pointe du progrès et avec des gens plus sérieux, des gens raisonnables. Et il y a eu un déchaînement de gens qui un jour devront être jugés car on s'apercevra que leur prise de position n'était pas sur des bases objectives, des bases, je me permets de le dire, intellectuellement honnête. Et ils devront un jour rendre des comptes.
Donc, puisque vous parlez de gènes, de génomes, de modifications, à quel niveau on en est aujourd'hui pour ce qui est des organismes génétiquement modifiés ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France dans l'horticulture domestique ?
Alors, avant de parler de génétiquement modifiés, pour l'instant, j'en connais pas beaucoup. Et puis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la connaissance du génome, des marqueurs qui nous permettent de mieux connaître une plante dans son intimité moléculaire et génétique, et pas par voyeurisme, mais parce que ça sert à quelque chose pour l'identification d'espèces, de variétés qui sont plus résistantes au sel, à la sécheresse, des choses utiles pour l'alimentation du monde. Donc on n'est pas là simplement pour l'aspect décoratif et se faire plaisir. Ce sont des enjeux absolument vitaux. Et si nous comprenons, et si nous rentrons dans cette intimité de la génétique, nous allons pouvoir faire des progrès de géant. À l'inverse, c'est une espèce d'obscurantisme qui me fait peur. Hein. Ça me rappelle les époques terribles de l'obscurantisme qui devient fanatique et quasiment religieux. Appuyé sur aucune connaissance et aucune discussion objective, honnête, ce sont des anathèmes. Voilà. Alors, il va y avoir un choix à faire. Ce qui est étonnant, c'est que la France, pays de l'esprit, n'est pas très en avance. Enfin, vous l'aurez compris après ce que je vous ai dit. et d'autres pays qui ont été beaucoup plus longs à partir et prudents que nous, telle l'Allemagne, par exemple, que je connais bien, sont en train, avec un consensus national, de progresser dans un domaine où nous, il nous est maintenant quasiment interdit de réfléchir, de parler. Enfin, c'est dramatique.
Il est maintenant le temps de faire une petite pause musicale avec le titre Ficker Van Blood du groupe Soliloquist of Sound. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de l'horticulture comme une des toutes premières disciplines ? À l'époque même, on ne savait pas que c'était une science, où on a pratiqué le croisement génétique. Je parle par exemple des croisements des cultures, même dans l'Antiquité, pour obtenir des variétés plus résistantes, des plantes plus belles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est certain que les horticulteurs ont été à la pointe du progrès. Enfin, Mendel, on peut dire que c'était un horticulteur. Il a travaillé avec des semences. Bon, et puis vous avez eu des gens tout à fait géniaux en France, l'école de Nancy, hein, avec des botanistes fabuleux qui ont été d'abord des botanistes qui ont décrit, puis après se sont mêlés de génétique, ont étudié les croisements, et puis ça leur a du reste suscité des ardeurs artistiques et esthétiques. Les vases de Galet était était d'abord un botaniste, et puis ce sont devenus des hommes important puisque botanistes, artistes, artisans se sont devenus des industriels et ils ont développé de véritables industries du verre, du bois, etc. à partir justement de leur connaissance de la nature, mais d'une nature vivante, d'une nature qu'on s'approprie, avec laquelle on joue sérieusement.
Vous avez parlé de botanique. Est-ce que vous pourriez nous faire la distinction entre la botanique et l'horticulture ?
La botanique, c'est la connaissance, si vous voulez, la classification, la connaissance des plantes par genre, par famille, etc., etc. L'horticulture, c'est plutôt les pratiques horticoles, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, comment je vis, je gère, je plante, je soigne l'ensemble de ces plantes. On est un bon horticulteur quand on est un peu botaniste, quoi. Il faut connaître quand même un minimum de choses pour reconnaître les plantes en face de nous et en parler sérieusement, avec précision. Donc la botanique est un élément constitutif de l'horticulture. Et on peut regretter que la botanique soit en perte de vitesse dans l'enseignement, car c'est quand même la clé. La clé de l'entrée à une nature comprise et à une bonne horticulture.
Le thème des colloques de cette année, c'est les coulisses de la floraison. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement les coulisses de la floraison ?
Alors, c'est un thème, si vous voulez, de notre société, qui est une Société nationale d'horticulture de France, qui est une société savante, qui se saisit tous les ans d'un thème, et son conseil scientifique étudie et organise un colloque autour de ce thème. L'année dernière, c'était Pays des racines. C'était donc tout le monde, la vie des racines, des plantes, la microbiologie souterraine, les symbioses, etc., etc. Bon. Cette année, c'est coulisses de la floraison. Et c'est important parce qu'avec le temps, là, aujourd'hui, on voit que la floraison, elle a quelques problèmes. On n'y peut pas grand-chose, mais c'est intéressant de comprendre comment la floraison s'initie, se développe, se transforme en fruit. Comment de temps en temps la floraison n'arrive pas jusqu'au sac de fruits, ou au contraire il y a trop de floraison et l'année prochaine il y aura une alternance par exemple avec les arbres fruitiers. Donc tous ces mécanismes sont fondamentaux parce qu'ils ont, outre la connaissance, des répercussions économiques sur le plan technique. Pouvoir maîtriser l'alternance de floraison des pommiers ou des poiriers en France, ça a des conséquences très graves, très importantes. Voilà. Et puis pour les amateurs aussi. Donc c'est quelque chose de fondamental. Sans oublier que la floraison, c'est une des étapes durant lesquelles soit les insectes, soit les hommes aident à la fécondation et ainsi peuvent créer de nouvelles variétés.
Nous sommes maintenant avec M. Christian Dumas, professeur émérite à l'ENS de Lyon et membre de l'Académie des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Votre spécialité, c'est la reproduction et le développement des plantes. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, rapidement, se reproduisent les plantes entre elles ?
Alors, les plantes à fleurs, on a découvert qu'elles avaient une sexualité en 1694, pour être précis. C'est-à-dire qu'il y a des organes mâles et des organes femelles. Les organes mâles sont les étamines et les organes femelles sont les pistils. Et il existe, on va dire, trois catégories de plantes, pour faire simple. Il y a à peu près 4% des plantes qui ont les sexes mâles et sexes femelles portés par des pieds différents. C'est-à-dire que vous avez un arbre mâle, par exemple, et un arbre femelle. Ce qui veut dire que le reste, sur le même pied, vous avez organes mâles et organes femelles. Mais dans cette deuxième catégorie, il y a encore deux sous-catégories. La plus importante, concerne à peu près les trois quarts des espèces, où au sein d'une même fleur, vous avez les deux sexes, mâle et femelle. C'est ce qu'on appelle les fleurs hermaphrodites. Et puis, vous avez des pieds qui portent des fleurs mâles et des fleurs femelles. Voilà les trois catégories. Et pour avoir une descendance, c'est-à-dire avoir un embryon dans une graine, il faut qu'il y ait fécondation. Et la fécondation chez les plantes, elle est très particulière puisqu'il y a non pas une, mais deux fécondations simultanées. Alors vous allez me dire pourquoi deux fécondations simultanées ? La première raison, pour prendre un élément de comparaison avec l'homme, lorsqu'un enfant naît, il a besoin de sa mère, parce que sa mère, c'est sa nourrice. Sans sa nourrice, il ne vit pas. Pour les plantes sont capables d'être autonomes sur le plan de la nourriture lorsqu'elles sont vertes. Et au sein d'une graine, l'embryon, vous voyez, c'est quelque chose qui est un vert pâle, voire incolore. Autrement dit, il faut que l'embryon germe, et c'est seulement lorsqu'il sort de terre qu'il va devenir autonome sur le plan de la photosynthèse, donc autonome pour survivre. Et avant d'être autonome, eh bien, il vit sur une nourrice qui est le produit de la deuxième fécondation. La deuxième fécondation, pour faire simple, ça sert de nourrice à l'embryon au moment de la germination.
Mais du coup, cette nourrice, elle continue de vivre après ou elle meurt ?
Alors, la nourrice, elle est épuisée au sens de ses réserves lorsque l'embryon a germé. Et un des enjeux de l'agriculture, c'est souvent d'utiliser la nourrice. Quand on... le blé, par exemple, les réserves d'amidon, ou le maïs, enfin toutes les céréales, ou la pomme de terre. Bon, alors la pomme de terre, c'est un mauvais exemple parce que ce sont des tubercules, ce ne sont pas des graines. Mais les réserves sont très souvent utilisées pour l'alimentation humaine et animale. Hein? Donc, si l'embryon les utilise, l'homme ou l'animal ne les utilise pas.
Aujourd'hui, comment est-ce qu'on appréhende la reproduction des plantes dans l'horticulture ? C'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé maintenant, bien connu. Mais comment est-ce que ça se passe au niveau de l'horticulture domestique, par exemple, ou de l'horticulture de pépinière ou de l'agriculture ? Parce que c'est trois modes de récolte différentes.
Alors, en général, on laisse la nature faire la pollinisation. Quand on dit la nature, c'est souvent les insectes et en particulier les abeilles qui servent de vecteurs pour transporter le pollen, qui est la substance fertilisante, fécondante, et donc transporter ce pollen d'une fleur sur une autre fleur, femelle. Parce que très souvent, on va en parler cet après-midi, au sein d'une même fleur, il y a des cas où la fécondation est possible, mais il y a de nombreux cas où la fécondation n'est pas possible. Et la nature a développé ce système d'incompatibilité sexuelle pour justement favoriser le brassage génétique. S'il n'y a pas brassage génétique, vous avez perte de variabilité génétique, donc perte des possibilités de vous adapter par rapport aux fluctuations du milieu. Alors ça, c'est une notion très générale. Maintenant, en horticulture ou en arboriculture fruitière, par exemple, on peut faire des pollinisations contrôlées. C'est-à-dire que l'homme contrôle, il joue le rôle de l'abeille, et après il met des caches pour éviter des contaminations, donc des sacs, hein, des sacs à pollinisation, qui vont empêcher toute contamination par le pollen dont on ne veut pas qu'il interfère avec le géniteur qu'on a choisi. Et c'est la base de la sélection variétale.
Mais à terme, comment est-ce que la nature fera si les abeilles finissent éventuellement par disparaître ? Car aujourd'hui, c'est un problème dont on entend souvent parler.
Alors, il faut espérer que les abeilles ne disparaîtront pas. Alors, il faut d'abord savoir que les abeilles, elles ont été domestiquées par l'homme. Et en étant domestiquées par l'homme, elles ont perdu, parce qu'elles ont gagné autre chose, elles ont perdu une bonne partie de leur mécanisme de défense, à la différence d'autres insectes. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les abeilles comme pollinisateurs. Il y a énormément d'animaux qui sont des pollinisateurs. La plupart sont des insectes, parce que les insectes, au niveau de la biodiversité visible, c'est pratiquement la moitié de la biodiversité visible. Et il y a des insectes, on va dire, qui sont attirés par le nectar. Il y en a d'autres qui sont attirés par le pollen. Tout ça joue un rôle dans les phénomènes de pollinisation. Hein.
Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, l'entomologie et l'horticulture et la botanique plus en général pourront être deux disciplines associées ?
C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas.
Vous connaissez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur la sexualité des fleurs et des plantes, et vous avez eu un bref aperçu de ce qu'est l'horticulture. J'espère que ça va vous donner l'envie d'aller planter quelques fleurs et d'avoir la main verte. Cette émission est maintenant terminée, mais restez à l'écoute sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet. À bientôt.